suis enfant, sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain, simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière, pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Monique, Monique, 01 43 71 89 40, ma numéro magique sur Radio Libertaire 89.4. Bah, Radio Libertaire, ça n'a pas changé, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Et Urbi comme Orbi, sans sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi. Vous y allez vers 13h et vous trouverez toujours quelqu'un jusqu'à assez tard dans la soirée. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Madame Brabant, on m'a dit de très belles choses sur vous. Alors, je ne vous connaissais pas. J'ai appris que vous aviez une revue. C'est le numéro 43, c'est ça?
Oui.
Numéro 43. Alors, je vais sauter sur l'occasion pour vous inviter. Hein, et pour qu'on fasse enfin connaissance.
Ah, merci beaucoup.
Alors, on va en parler, bien sûr. On va descendre dedans. Je suis un peu gêné, Madame Brabant, parce que je tiens à vous dire qu'en dernière de couverture intérieure, vous dites des artistes singuliers, des écrivains oubliés, des inédits d'auteurs contemporains, de la littérature populaire, des curiosités de bibliophilie, des sites d'art brut, des vies remarquables, des fous littéraires. C'est ce que la revue Empreinte propose de faire découvrir. Magnifique, ça c'est clair. Et il y a une gravure au-dessus, oui. Du XVIIe siècle, c'est ça?
Oui.
C'est un monsieur qui a de la culotte baissée, qui est en train de chier et qui fait un magnifique étron. Elle est magnifique, hein?
Oui.
D'accord. Et c'est à l'image de la revue ou c'est...
Oh ben, de temps en temps, un peu de scatologie,
bien.
Peu de pornographie.
Non, et non, je veux vous dire que la réalisation est très belle. Hein?
Oui.
Une très belle réalisation. Hein? Monsieur Triboulet, on m'a aussi beaucoup parlé de vous. Vous avez fait les beaux jours, les bonnes soirées de la Cantada, déjà jadis. Hein?
Oui,
oui. Hein? Ça a marqué le tout Paris.
Oui.
Monsieur Coda, personne ne m'a parlé de vous. Parce que Jacques Coda, mieux vaut s'en tenir loin.
Vous avez raison. Hein,
pour la réputation.
Vous avez raison.
Eh oui, j'ai raison. Quant à Joseph Nozardzewski, voilà, t'es arrivé comme ça. Là, alors, Bonjour. On s'était vu déjà pour le Belle-Mère.
Oui, pour Belle-Mère en décembre.
En décembre. Personne n'était prévenu de votre venue. C'est un plaisir de vous voir. C'est pas, d'ailleurs, c'est pas une émission de radio, c'est une maison de rendez-vous. Hein.
Voilà.
Je t'avais prévenu. Je t'ai prévenu. Et puis en cabine, de toute façon, il y a Monique. Hein, tout le monde connaît Monique depuis longtemps.
Bonjour Monique.
Monique, oui, il faut être très bien se tenir.
Oui. Pas taper sur la table.
Alors, avant qu'on... traumatisé. Avant qu'on descende dans Empreinte 43 et dans Pronostic Vital engagé aux éditions Sans Crispation, ça va être très rapide. Édition Sans Crispation, le titre de la maison d'édition est très bien. Avec tout ce qui se passe, c'est très bien.
Oui.
Et aussi, je pense aussi qu'on samedi sur Arte, on a atteint un des sommets du crétinisme ambiant. Il y avait un film, c'est très bien, sur Public Sénat. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne.
Mais je
il y a toujours
pas.
Des films historiques qui sont très bien.
Ah, oui.
Et là, il y avait Lucrèce au cœur. L'Ukraine au cœur, c'était un film sur l'Ukraine, c'était BHV, Bernard-Henri Lévy.
Voilà.
Pas vu.
Alors, j'en parle parce que là, on atteint le sommet de quelque chose. Et comme sur Public Sénat, ça repasse plusieurs fois, je tiens à prévenir les gens. Qu'est-ce qui se passe? On voit ce philosophe, cet auteur, appelez-le comme vous voulez, en chemise blanche, avec un petit gilet, qui court avec les soldats, il se baisse sur les mitrailleuses, et...
À balles réelles
Avec une musique grandiloquente, comme ça. Il avait déjà fait le coup, il y a pas mal d'années, pour Bosnie.
À Sarajevo.
Tu l'avais vu?
Oui, je l'avais vu. Et il avait un T-shirt.
Un T-shirt.
Qui était adapté à la situation.
Il n'avait pas de chemise blanche, son costume de scène.
Et là, je me dis, ce n'est pas possible, c'est moi qui suis... J'écoute le commentaire, voix grandiloquente, etc. Et je me dis, ce n'est pas possible, c'est moi qui suis orienté. Et heureusement que j'ai trouvé sur Télérama, qui est quand même pas un journal gauchiste, à peu près ce qu'il faut dire. Alors je vais vous le dire rapidement. Voilà. À Odessa, meurtri par les bombes, BHL ou BHV comme vous voulez, s'immergea encore dans la communauté juive pour démystifier l'idée poutinienne d'une Ukraine nazie. C'est là quand même. Louable intention que cette ode... à l'héroïsme de tout un peuple résistant que se plaidoyer contre une Europe attentiste face à la barbarie. Seulement voilà, comme d'habitude, BHL confond miroir et écran. Présent à chaque plan, son décolleté géant à peine dissimulé sous un gilet pare-balles. Il n'hésite jamais à salir ses souliers ou à se recoiffer discrètement. Les casques aplatissent les cheveux, c'est bien connu. Une posture d'autant plus ridicule qu'il se tient aux côtés de ses braves soldats en treillis. Mais l'emphase chevrotante du récit, comme l'ego triple de son auteur, tend à brouiller le message pour finalement l'annihiler. La bande-son tire l'arme, elle bascule allègrement dans le mélo. Était-ce bien nécessaire d'illustrer ainsi le calvaire ukrainien? On ne peut pas mieux dire.
Ah oui,
on peut pas mieux dire. Si vous pouvez le regarder, ça vous le regarder, l'Ukraine au cœur, vous abandonnerez tout de suite. C'est répugnant. C'est absolument répugnant quand on pense que
et
c'est...
Ça, et ça prend parti pour qui? Pour l'Ukraine? Pour Poutine?
Ça prend parti pour lui.
Pour lui.
Oui, pour lui.
C'est vrai,
oui,
avant toute chose. Oui, c'est vrai.
C'est
vrai.
C'est narcissique.
Alors, vous que monsieur Jacques Coda, qui avait un poster de BHV et puis des œuvres complètes dans votre bibliothèque, vous venez de commettre Pronostic Vital engagé ou édition Sans Crispation.
Nouvelle maison d'édition.
Lorsque j'ai reçu l'avis de parution, je vous ai envoyé un petit message en vous disant catastrophe. Et vous avez l'air fâché.
C'est fini entre nous.
Et comme ma mémoire est bonne, contrairement à la vôtre, je me suis souvenu de Jésus qui Juliette et Loïse, édition Douro, où vous dites: je suis arrivé au bout, au fond de l'enfer qui a été ma vie. Malade, bricolé de partout par la médecine, valve cardiaque, prothèse de hanche, ablation de la vésicule, emphysème, liquette buccale, diabète, et livré au monde d'aujourd'hui, sans défense immunitaire, je jette l'éponge. Comment voulez-vous que je ne sois pas alarmé avec pronostic vital engagé, franchement?
Oui, c'est vrai. Maintenant que vous faites le lien avec...
En plus, tout est vrai là-dedans.
Alors, je me suis dit, soit il en rajoute, soit il en rajoute.
Soit faut l'inviter tout de suite avant qu'il finisse au Père-Lachaise.
Alors, j'ai été rassuré parce que ce qu'il relie, tous tes livres, ce pronostic vital engagé, Jésus, Kid, Juliette, Héloïse et le reste, c'est très vivant. C'est l'antithèse, c'est très vivant.
Oui, c'est une histoire d'amour.
Renaissance.
Oui, c'est ça, c'est une résurrection. Ben, déjà, il y avait une image christique dans le précédent. Là. Donc là, c'est après Pâques. Et c'est un roman de science-fiction. Ça se passe en 2028.
J'ai vu ça.
Non, je me suis accordé 4 ans de plus.
4 ans de plus. Mais attention, je crois que c'est par lâcheté et prudence, parce que lorsqu'on dédie la première partie à Léa Seydoux, et la deuxième à Jean-Pierre Chevènement.
Oui, là,
le deuxième, il a des chances dans 4 ans de ne pas être là.
Déjà, lui aussi, c'est une résurrection, si je me souviens bien de ce qui lui est arrivé. Il a fait une crise cardiaque dont il a réchappé par miracle. Donc, il est sur six terres, mais ça fait pas mal d'années, d'ailleurs.
Il t'a répondu ou pas?
Déjà, je ne l'ai pas envoyé. En revanche, je l'ai fait parvenir à l'agent de Léa Seydoux. Alors, j'ai rencontré une actrice dernièrement qui m'a dit que Léa Seydoux ne le lirait pas parce que c'était trop érotique et qu'elle avait un mauvais souvenir d'un film qu'elle avait fait, La vie d'Adèle, qui l'avait marqué au fer rouge jusqu'à maintenant. Et que c'est terrible. Et que donc, en fin de compte, c'est une actrice qui m'a parlé d'Léa Seydoux. Elle m'a pratiquement assimilé à Weinstein, prédateur sexuel. J'ai été atterré.
Quelle déception tu as eue! Quelle déception tu as eu. Moi, d'un bout à l'autre, non seulement il y a assez plein de vie, plein de couleurs, plein de désirs de grande bouffe aussi, de grande bouffe, comme toujours dans tes livres. Il y a toujours le rapport entre la peinture.
Oui, bah c'est ça.
Et
c'est
la nourriture.
C'est la peinture, surtout. Oui, c'est la peinture. Oui, il y a toujours ce rapport entre, effectivement, la cuisine de la peinture et la cuisine alimentaire. Et la peinture, pour moi, oui, est une dévoration. Oui,
tu avais vu ce film de Marco Ferreri?
La Grande Bouffe.
La Grande Bouffe.
Vu, revu, sur-revu. Ouais. C'est un des films fétiches.
Et très prémonitoire par rapport à tout ce qui se passe sur la consommation actuelle.
C'était le discours de Ferreri, c'était surtout un film sur la consommation, ce qu'on appelait la société de consommation à l'époque, et poussé à l'extrême. Quoi.
Et qui était moins vrai aujourd'hui. Qui était moins vrai qu'aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est devenu une banalité même. Hein.
Ouais, tu l'as vu, c'est le film La Grande Bouffe.
Oh, oui.
C'est magnifique.
Qui a fait scandale à Cannes. Oui, magnifique. Avec
un film formidable. Formidable. Unique.
Andrea Ferreol.
Le
poster, comme tu l'appelles.
C'est la beauté, elle est pure. C'est la beauté.
Elle est magnifique. C'est un Rubens.
C'est un jeu à la vie et à la mort.
Bien sûr. Il y en a pas beaucoup qui survivent dans ce film. C'est la seule, d'ailleurs, qui reste en vie, Andrea. Les quatre mecs meurent un par un.
La vie est dure. Pour les
je me souviens surtout de Piccoli qui a une mort un peu fécale. Il paraît que la mère de Piccoli n'a jamais voulu voir le film à cause de la diarrhée géante qui sortait de son poster, pour reprendre l'expression. Voilà, c'est un très grand film.
Donc, tu as fait une signature et une intervention au maire Le Moqueur il n'y a pas longtemps.
Oui.
Là, tu m'as désigné du doigt pour que j'intervienne.
Oui,
étant le seul kamikaze à avoir lu ton livre.
C'est vrai, les autres n'avaient pas osé.
Ils s'en foutaient complètement, d'ailleurs.
Ou alors, ils étaient bourrés.
et j'ai dit que ton livre, avec la vitesse, les sauts, les plans, les emprunts aussi...
Ça ressemblait au cinéma.
Les emprunts,
oui.
Ça ressemblait, c'était du cinéma, et surtout du Pierrot le Fou.
C'est ça, Pierrot le Fou. Oui,
et qu'est-ce que tu en as pensé de ça?
Ah, mais t'as raison. Là aussi, c'est un film que j'adore. Et il y a cette espèce de... Bon, Pierrot le Fou, il est beaucoup question d'un auteur que tu n'aimes pas trop. Beaucoup question de Céline dans Pierrot le Fou. Je crois que le héros s'appelle Ferdinand, hein, si je ne me souviens bien. Dans Pierrot le Fou, qui est une allusion à Bardamu. Et donc, oui, il y a de ça, il y a de la folie, il y a de la... Parce que c'est une divagation, hein. Ce livre, tu vois, tu m'influences.
Ce film avec Léa Seydoux, tu vas pas tarder à tourner. Oui.
Bon, j'attends un coup de fil de Léa. Avec
d'ailleurs, en quatrième de couverture de ton avant-dernier livre, l'œuvre manquante devient prescription pour parler comme Godard.
Godard, dans prescrire, il y a écrire. Donc tu connaissais au moins le nom de Godard.
Un peu, oui, j'avais entendu parler de ce Suisse un peu pété qui fumait le cigare. Et donc, oui, Godard, c'est les vieilles amours, hein, c'est toute mon adolescence, ma jeunesse. Bon, ensuite, je l'ai même suivi quand il était en Palestine à faire des films sous le manteau, quasiment très, très militant, etc., etc. Et il est revenu au cinéma ensuite, après cette période Mao, terrible et dure. Les Cahiers, d'ailleurs, étaient devenus un journal un peu fermé.
Avant de revenir là-bas, avant de... On viendra à pronostic vital engagé, sans aucun problème. Deux choses, puis que tu as tenu à faire une lamentable provocation, là, il y a deux secondes, avec Céline. Tu as un point commun, effectivement, tu as le phénomène de l'emprunt.
Oui.
Quand on se permet dans la même tirade, M. Koda, de citer...
Je sais que tu adores Céline.
De côté Céline... j'ai quand même décodé l'amour, cette
l'infini à la portée des caniches.
C'est à la portée des caniches.
Oui.
L'infini, l'amour à la portée des caniches, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et puis juste en dessous, Arthur Rimbaud, je crois qu'il faut un peu de décence dans tout ce qu'on fait. D'accord.
Non, toujours un peu d'indécence.
Alors, avant qu'on passe en plein, c'est pour venir à la grande bouffe et à la peinture. Arthur Cravanff,
qui est
maintenant, a financé sa revue. En 1913 d'ailleurs, en faisant la publicité pour un restaurateur. Alors il lui mettait une page de pub, comme ça, tu ferais faire ça, Claude. Ça lui finançait sa revue. Et c'était chez Jourdan. Alors il fait, que faut-il au poète? Une bonne nourriture. Où peut-on la trouver? À bon marché, chez Jourdan. Suivez l'adresse.
Bien.
Alors après...
Tu veux que je mette ça dans mon bouquin?
Où se rencontrent les poètes, les marlous, les boxeurs? Chez Jourdan, restaurateur, il remet l'adresse.
Ah.
Alors... C'est pas fini. Alors, ça, c'est pour toi. Où peut-on voir Vendanghen mettre la nourriture dans sa bouche, la mâcher, digérer et fumer chez Jourdan.
Jourdan.
Et c'est pour finir. La nourriture est le sentiment. La nourriture est le foyer des sentiments. Les hommes peuvent charger leur corps. Où?
Chez Jourdan.
Chez Jourdan. C'est extraordinaire, hein?
Ah oui, c'est formidable.
C'est extraordinaire.
C'est comique de répétition.
Bah, je suis content de te voir, Joseph. On va faire vite fait. Je ne dis rien, je suis très discret. Hein. T'as donné quelque chose de très secret à Claude Brabant. Et quant à moi, tu es venu avec un portrait d'André Breton par Belle-Mère pour le prochain numéro de la revue Toto.
Parfait.
Et c'est adorable.
Oui, d'accord. Je suis très content de transmettre.
Voilà, ça on va transmettre. Si, oui, où est ma revue, monsieur? Elle est là. Je croyais que vous m'aviez piqué ma revue.
Non,
bon, alors, quand je lis, malheureusement, monsieur Codard, comme tous ces auteurs que tu vas chercher des fois, je pique toujours une colère contre ces gilets jaunes, tu vois où je vais en arriver, hein, qui ont brûlé les kiosques. Parce que ce jour où les kiosques ont été brûlés, quelqu'un dans un bistrot m'a dit « ne faut pas toucher au papier ». Et tout ce qui est imprimé, tout ce qui est écrit, pour moi, il y a un sens du sacré. Et je suis très content que tu ailles chercher toi, même si tu les as sur Internet, hein, des auteurs mais complètement inconnus. Parce que Edmond Haraucourt, 1856-1941, je ne sais pas qui tu connaissais. Qui connaissait?
Oui, moi, la légende des sexes, donc. Oui.
Oui, à cause de la légende des sexes, effectivement. Sinon, mais on ne connaissait pas l'autre chose.
Non, c'est qu'il il faisait partie des hydropathes, c'est ça,
ouais,
hein, c'était cette espèce de secte de buveurs d'eau.
Par contre, il y a quelque chose que si tu peux, pouvoir m'éclairer, c'est que celui qui a fondé les hydropathes s'appelle Émile Goudot.
Alors, oui.
Est-ce que c'est un pseudonyme ou c'est...
Non, c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom.
Son vrai nom.
Et je crois qu'hydropathe, ils l'ont... Oui, c'est en rapport avec Goudot.
Je pense aussi, oui.
Tu crois que ça a déterminé ce...
Oui, on ne sait pas trop, mais on pense... Il y a plusieurs interprétations, dont celle-ci, oui, que Goudot, qu'on entend Goudot. Avoir le goût de l'eau, donc ça viendrait de la hydropathe, oui.
Tu sais qu'il y a quelques années, il y a eu un pyromane qui s'appelait Chalumeau.
Non.
Et qui est passé en jugement. Et effectivement, le juge lui a trouvé des circonstances atténuantes en disant qu'en se prenant Chalumeau depuis l'enfance, c'est quelque chose de bien.
Moi, je m'appelle bien Koda, qui signifie la queue aussi. C'est pour ça que j'ai des circonstances atténuantes.
Surtout, c'est des circonstances exténuantes plutôt. Monsieur Triboulet, vous voulez qu'on essaye de faire l'homme... Alors, dans l'homme comestible, c'est la deuxième nouvelle de, d'Edmond Haraucourt.
Ouais. Hein.
La première, c'est sur la mort du pape.
Le dernier pape.
Le dernier pape, j'allais dire ça. Et l'homme comestible, alors pourquoi j'ai choisi ça, si on peut la lire avec Triboulet, c'est que par rapport à cette... dans la période qu'on vit, cette période de wokisme, on ne peut plus rien dire.
Ouais.
On ne peut plus rien dire. Si on considère ce texte-là, il va paraître raciste.
Oui, je sais.
Il va paraître raciste. Alors que pour moi, il est hilarant. Il est hilarant. Et il est peut-être de l'autre côté. Il faut peut-être le voir de l'autre côté. Qui est le malin dans le texte? C'est peut-être pas l'homme blanc.
Non.
C'est pas l'homme blanc. Hein.
Le sergent, il est arrogant.
Il est arrogant.
Il est paternaliste.
Il est con-con.
Oui, oui.
Il est con-con. Voilà. Et il ne faut pas oublier que ça a été écrit, ça a été écrit dans les années...
Fin 19e.
Oui. On est dans le colonialisme. Hein, on est dans la découverte des
d'autant
pays,
plus intéressant,
des pays lointains. Hein. Monsieur Triboulet, vous voulez essayer avec moi l'homme comestible?
Oui, je commence ou...
Oui, allez-y. Ou piquant, oui.
Alors, ça s'appelle l'homme comestible. Le lieutenant posa son boc vide sur le guéridon de marbre et but la bière de sa moustache. J'ai failli vous l'apporter, moi, le clou de l'exposition. Et je vous promets qu'on se fût pressé autour de mon gourbi. J'aurais tout simplement présenté mon article dans une section scientifique ou industrielle. Et vous auriez vu le succès imaginé à l'alimentation. Entre le riz d'Asie et le cacao d'Amérique. Une petite case africaine, bambou et feuilles de palmier, avec cette coquette inscription « Homme comestible ». Parfaitement, un homme comestible, engraissé tout exprès pour la table, superbe, appétissant et joyeux. J'ai eu cet article-là, moi, et l'exposition ne l'a pas eu, il a manqué. Quand une exposition se vante d'être universelle, son rôle est de nous montrer tous les produits que diable. Puisque le commerce de la chair humaine se pratique tranquillement chez nous, pourquoi ne pas montrer au moins un spécimen de la culture? On trompe le monde en lui cachant... des choses, et vous croyez naïvement, vous autres, que l'anthropophagie tend à disparaître du monde, qu'elle se pratique en temps de guerre, peut-être, entre des peuplades perdues, et que cette coutume barbare s'évanouit à l'ombre de nos drapeaux, dès qu'on les plante quelque part. Vous croyez qu'on mange de l'homme quand on est privé de moutons, qu'on mange des ennemis, qu'on mange de vieux parents devenus inutiles, ou des enfants qu'on ne veut pas nourrir? Vous croyez que les victimes ont du chagrin, qu'elles supplient, demandent grâce, tendent les bras? Baliverne. On mange de l'homme parce que c'est bon. Et ce qu'on mange ne met pas tant de façons pour monter sur le grill. En voici la preuve, car je vous garantis l'authenticité de mon histoire. Nous avions pendant 6 semaines remonté le fleuve, et nous devions, au confluent, attendre la baleinière du commandant. Dans le village, on nous reçut avec des marques de respect et de sympathie parfaitement simulées, comme les plus faibles en produisent aux plus forts. On nous procura des bananes, du poisson frais et des cabris. Nous dressâmes notre tente et devant on planta le drapeau tricolore. Les nègres l'entouraient de révérences comme le fétiche d'un ami. Et l'on fit palabre à l'entour. Même on nous offrit le foutou, arrosé de vin de palme et de gin. Les chefs avaient mis pour nous faire honneur leurs habits de cérémonie composés d'un pagne aux couleurs vives et les guerriers portaient pacifiquement à leur ceinture, dans un fourreau de cuir enrichi de clous dorés, leurs machettes dont la garde est ornée de nacre. Les jeunes gens nous donnèrent le simulacre d'un combat et quand la fête fut terminée, on nous laissa tranquilles. Nous n'avions plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de la baleinière que les Congolais, de leur côté, attendaient avec plus d'impatience encore. De tout ce que nous pouvons leur offrir, la chose que les Noirs désirent entre toutes, c'est le départ des Blancs. Donc nous voilà installés et mêlés à la vie de ces pauvres diables. Elle est bien simple, ils font grève. Ils sont en grève depuis des milliers d'années. C'est le pays idéal, où le patron doit travailler tout seul et produire pour tout le monde. Le patron, bon enfant, se résigne, car le patron, c'est la nature, et le trim, et mes gars vont dormir à l'ombre. Quand je dis qu'il ne faut rien, j'exagère. Il faut pourtant ramasser la récolte, mais on se bouge le moins possible, et toutes les excuses sont bonnes. Un grand bélitre de 20 ans rôdait pendant des heures autour de notre tente. Paresseux, tu ne fais donc rien? Moi, pas travail. Il riait très fier, comme si l'oisiveté professionnelle eût été chez lui, comme en France, un privilège d'aristocrate et de fonctionnaire. Il était beau, solide, sain et toujours content. Lorsque par hasard un de ses compatriotes passait en portant un fardeau et zézayait de petites phrases pour narguer le travailleur, et personne ne se fâchait. Quand une femme rentrait au village portant un panier de bananes ou une cruche d'eau, il s'approchait en riant, choisissant deux fruits, trois fruits, les plus beaux de la corbeille, buvait à la cruche, et la femelle disait « Lagmé !» et il répondait « Lagméo ?»« Va t'en dormir !» « Je vais dormir. » L'interprète lui cria de ma part, « Tu n'as pas honte? Ne peux-tu aller toi-même chercher ton repas au lieu de dépouiller les autres fainéants ?» Et il rit et il dit, « Moi pas travail. » J'imaginais qu'il était sans doute prêtre ou sorcier, qu'il exploitait la crédulité des gens. Dans ce cas-là, rien à dire. Il faut respecter la religion toujours partout, c'est mon principe. « Veux-tu gagner un baïssa ?» Porte cette malle au bateau. Il se récria « co-co-co », ce qui signifie « c'est loin, très loin, très très loin ». Tu te moques de moi, 200 mètres. Tu auras un verre de gin, moi pas travail. Qu'un nègre refuse de l'alcool, cela passe les bornes, et la religion seule pouvait opérer ce miracle. Je n'insistais donc plus et laissais mon homme en repos.
Il continuait son manège, prélevant la dîme à l'entrée du village, et quand cette préborde ne lui suffisait pas, il pénétrait naïvement dans les castes, mangeait le foutou et s'en allait en riant, lesté à souhait pour dormir. Jamais un coup de bâton ne l'accueillit, et le doute ne restait plus possible. C'est un sorcier. Je ne m'en occupais, d'ailleurs, que pour en rire. Et ce gaillard m'amusait par son aisance à exploiter la sottise humaine, en dépit de l'égoïsme humain. Il m'amusait aussi par sa bonne humeur perpétuelle. Il ne demandait qu'à rire, et tout prétexte lui suffisait. Il riait de voir les gens, il riait d'être seul, il riait de cueillir un fruit et d'avoir bu sa gorgée d'eau. Il riait de marcher et de s'asseoir. Il riait du soleil levant et du soleil couchant, de la brise et de la lune. Il nous donnait l'image de l'homme parfaitement heureux. Un jour, nous vîmes autour de lui, sur la place du village, un gros rassemblement. Il était debout au milieu du cercle, tout nu, et les noirs s'approchaient de lui tour à tour, lui traçaient des lignes sur le corps avec une craie rouge. On illustrait sa peau de carré, de losange, de cercle, de rectangle. On lui dessinait des anneaux rouges autour des cuisses, des mollets ou des bras autour du cou. Puis les gens lui mettaient une pièce de monnaie dans la main et il riait. Je manquis du sens que pouvait avoir cette cérémonie. Et l'interprète me traduisit le renseignement « On va manger l'homme, chacun choisit et achète son morceau. » Alors vous pensez si je m'en indignais? Au fond, je m'en moquais, l'affaire était drôle. Il me tardait même de rencontrer des camarades à qui je le raconterais, mais quoi? Je devais empêcher qu'une pareille chose se produisît à l'ombre du drapeau. Je t'empêtais, je fis venir ce veau et je la monestais de belle façon. À tout, il répondit en riant, moi content, moi pas travail, moi bon manger. Il riait plus fort, touchant du bout des doigts sa fesse ou ses côtelettes. Bon, bon, ça, bon! Il allongea sa lippe avec un air de gourmandise et les yeux arrondis par l'imagination, il gloussait, se gargarisait de salive qu'il continuait à désigner du doigt. « Oh, bon, fou bon 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 !»«
Tu n'as pas honte, malheureux ?» Je lui parlais de la dignité humaine et je sentis que j'avais tort. « Tu es un homme libre depuis la France. Moi pas travail, moi bien soigné, moi content, moi bon. » C'est une honte de se vendre, tu devrais rougir. Toi pas savoir, toi pas goûter, bon, bon, bon. Moi pas manger blanc, pois, blanc mauvais, blanc sucré, nègre bon. À ma place, qu'est-ce que vous auriez répondu? Des bêtises. J'en ai dit. Les grands mots de lâcheté, d'infamie, c'est des opinions, ce n'est pas des arguments. Pensez de moi ce que vous voudrez. Je ne trouvais rien à répondre pour convaincre cet homme qui n'était pas content ou qu'il avait tort d'être content. Il retourna sur la place, recommençant à appeler avec des petits cris gutturaux la clientèle. Je ne pouvais cependant pas souffrir qu'on se moquât ainsi de mon prestige et de mes remontrances. Je fis empoigner le nègre. Je crois bien que j'eus tort, car nos amis de la veille entouraient la tente avec des grognements de menaces et je dus faire prendre les armes. Le chef vint parlementer. Je prétendais que le veau rendit l'argent aux acheteurs. Mais il s'y refusait. On le lui prit de force et pour la première fois, je le vis triste. Le chef emporta les pièces de monnaie et les restitua aux clients. Mais sans doute, chacun d'eux réclamait plus qu'il n'avait donné. Une bagarre s'ensuivit. Les clameurs devenaient inquiétantes. Les femmes nous jetaient des pierres. Et je ne sais comment l'affaire eût tourné si la baleinière du commandant n'était arrivée pour nous sortir de peine. Le canon est un orateur admirable. Il n'a pas besoin de parler pour qu'on l'approuve. Il n'a eu qu'à se montrer. Grâce à lui, nous pûmes transporter à bord notre bétail humain, auquel on dit « Tu resteras avec nous, tu travailleras la manœuvre, tu gagneras ta vie, tu es un homme libre. » Il écoutait et ne riait plus. Les deux baleinières partirent de conserve, mais à la tombée de la nuit, le nègre se laissa glisser dans la rivière, sans qu'on s'en aperçût, et retourna vers ses clients, qui le soignaient si bien. Il aimait être mangé. C'était sa vocation.
Super. Oh, non, mais super. Non. Joseph, non, superbe ce texte, non?
Incroyable.
Jacques.
Christique.
Non, mais c'est génial,
c'est,
non?
C'est génial, oui,
c'est génial.
C'est une ambiguïté telle, hein?
Qu'on ne peut pas décider.
On ne peut pas décider.
Il n'y a pas d'opinion dans la perle.
Et puis, il y a un style. Il y a un style d'écriture.
Il y a tout le 19e siècle.
Il n'y a pas d'ambiguïté, ce mec, c'est des bienfaiteurs de l'humanité, c'est tout.
Monique, merci. Musique. Merci. Claude, on va écouter de la musique et puis tu vas dire ce que c'est. Hein?
Oui.
Tu vas voir. Thank you.
Claude Brabant alors?
Alors c'était un morceau qui s'appelle Sornep, qui est dans le disque Le Fil d'Ariane, par le Jepsicar Quartet. Les musiciens, c'est Jepsicar au sax, Mathias Pizarro, Gildas Kwarnek et Christian Letté.
Pour mémoire, Jeff Sicard, c'est le monsieur qui a fait tant souffrir Monique en technique.
Voilà, qui est venu à toutes,
qui est venu à toutes les émissions, qui était absolument, qui avait une musique prodigieuse. Il jouait même du téléphone pendant l'émission. Je ne sais pas si tu te souviens, le téléphone sonnait, on ne savait pas où était le téléphone, mais c'était très bien.
Oui, oui.
Monique a beaucoup souffert, je tiens à te dire.
Alors, c'est un disque paru en 93, février 93. Et la musique de Jeff, on peut l'entendre sur YouTube actuellement. Voilà.
Et son prochain, il n'y avait pas un CD ?
Il y avait un projet de CD, mais c'est en cours.
Maintenant, je voudrais vous poser la question que doivent se poser tous nos auditeurs. Comment votre concept onirique, à tendance kafkaïenne, coexiste-t-il avec la vision sublogique que vous faites de l'existence intrinsèque ? C'est une question pour Bernard-Henri Lévy. Ça fait des années qu'il voulait venir sur Radio Libertaire. Et voilà, donc c'est la question que j'y poserai. Merci Joseph. Donc Joseph est venu avec ses 100 P. C'est quoi ? C'est 100 P ?
Oui.
C'est 100 P, c'est ça. Puisque tu es là, tu vas prendre quand même tes responsabilités. Il ne faut quand même pas rigoler, monsieur Joseph Nozarzewski. Tu étais venu pour le Belmaire. Avec ensemble avec des reproductions, des dessins avec Jacques Codat, et c'était publié aux éditions Bleu Turquin. Hein, ouais. C'est encore trouvable ça.
Ah oui, absolument. Hein,
c'était
oui,
un très beau livre et ouais. Avec des, moi j'avais trouvé des reproductions très très bien faites. Ah, oui, et surtout, et là j'avais eu un coup de cœur parce que tu m'avais fait de la peine. J'avais trouvé le portrait du Nick Hazern absolument superbe et tu m'avais dit qu'à la fin de sa vie, elle avait des problèmes physiques, elle était dépeignée, elle était assez sale entre guillemets.
Comme souvent ça se passe dans la vie.
Voilà,
malheureusement.
Voilà. Hein, voilà, donc, voilà. Donc ce livre est trouvable. Hein.
Absolument. Hein, c'est autant qu'on en
voilà, édition Bleu Turquin,
il est trouvé sur les plateformes, sur le site de l'éditeur ou à commander en librairie.
Très bien voulu. Quand on lit des textes, comme on vient de le faire, aussi bien comment il s'appelle ton livre, Pronostic Vital
Engagé.
C'est
voilà.
Engageant comme lecture.
Et
hein.
La couverture est assez engageante.
Oui. Très bien. Et c'est toi qui l'as fait, ça.
Oui, oui, oui.
D'accord. C'est édition sans crispation.
Oui, jeune éditeur. C'est une maison d'édition qui existait déjà, mais qui a été reprise par
Philippe Sarr. Est-ce que tu t'interroges, et moi, c'est par rapport au texte qu'on vient de lire et ce que tu écris, etc. Oui. Est-ce que tu es intéressé sur ton lectorat des fois?
Non, pas
non,
c'est pas vrai.
Non.
Oui, bah écoute, quand j'ai des échos souvent positifs, soyons malhonnêtes, je demande qui et pourquoi, quoi. Bien sûr, je m'intéresse à la réaction du lecteur, bien sûr.
Parce que tu cites beaucoup. Tu cites Mallarmé, tu reprends Mallarmé.
On ne s'en fait pas. Oui.
Et dans ta perversité intrinsèque, tu vas même chercher mon ami Michel Fardonis-Lagrange.
Oui.
Il est sorti de son orbite, de pair avec sa sublimation.
Tu sais que j'ai cherché après que tu m'as. J'ai cherché où j'avais pêché ça, je n'ai pas retrouvé. Peut-être dans la Cresserelle ou.
Non, ça doit être dans le grand objet extérieur.
Oui, c'est possible. Voilà. C'est possible.
Voilà. Mais ce sont des. Je veux dire que le texte de Mallarmé est très difficile. Celui de Baudelaire est quand même assez difficile.
Tu parles du corbeau, c'est quand je parle du corbeau, oui.
Hein?
Ouais.
C'est-à-dire que tu te fous de ton lectorat, mais ton lectorat est déterminé par avance.
C'est-à-dire
qu'il faut quand même pouvoir lire Fardoulis, il faut quand même pouvoir lire Mallarmé, qui n'est pas facile.
Ou alors c'est une façon de leur mettre le pied à l'étrier, leur faire découvrir Mallarmé et Baudelaire, et qu'on sort. Mais bon, mais ça vient naturellement. Hein. J'ai pas de volonté a priori de faire découvrir, de ne pas faire découvrir. C'est le texte qui fait l'écriture. Hein. Je ne suis que le scripteur. Je suis l'écriture qui me commande.
C'est ce qui te différencie de la peinture ou pas?
C'est très différent.
Tes dessins, ouais. Là, tu n'as pas d'idées préconçues.
Non, puis la peinture, c'est plutôt chez moi, c'est quelque chose de violent. Mmh. Il faut que ça soit rapide, bref. C'est pour ça que j'assimile ça à la nourriture. C'est la transformation, la métamorphose, par exemple, d'une vache en steak haché, si tu préfères. La toile, c'est un peu comme ça que je la conçois. C'est la transformation de l'invisible, qui serait la vache putative, en viande, mais en couleur plutôt, et en forme.
Je trouvais ta métaphore est très délicate. De la vache en steak haché.
Parce que nous étions dans la boucherie avec
personnage qui écrit à une femme colombine de cheval, ça ne m'étonne pas.
Non, d'accord. J'ai écrit des choses comme ça. Non, c'est pas moi.
C'est
Paul Mario.
tu connaissais Jean-Pierre de Goff?
Ah oui, je connais depuis longtemps. Je l'ai connu de lui. Et puis je l'ai publié 3 fois, je crois, dans Empreinte.
Oui, mais
et lui, je l'ai connu.
Donc il est mort, de façon tragique.
Oui, il est mort un peu comme Jimmy Gladiator.
Comme Jimmy Gladiator.
Même genre de maladie, je ne sais pas si c'est la même. Mais...
Il a une fin très, très, très difficile. Alors là, c'est page 13, monsieur, page 13. Si vous pouvez, oui, page 13, on peut trouver, là. Alors, dans la Gazette Forte... Oui, bonjour monsieur, ça va être comme chez vous, ça ne me dérange pas du tout. Bon, dans la Gazette Fortéenne numéro 4, je lisais un article de Marie-Christine Lignon intitulé « Les phénomènes fortéens de la revue Métaphysique ». Une note tira mon attention, la prunelle photographique. Vous l'avez monsieur?
Oui, oui.
Vous pouvez donner un petit extrait, je vais expliquer quelque chose moi, si possible.
Selon une information d'agence annonçant l'arrestation du sieur Angerstein, qui massacra plusieurs personnes, la culpabilité de ce dernier aurait été prouvée par le fait suivant. La prunelle d'une de ses victimes, dont les yeux étaient demeurés ouverts, ayant été photographiée, on y vit comme dans un miroir l'image du meurtrier, la hache levée, prête à frapper. Ce n'était pas la première fois que me parvenait le thème de l'image de l'assassin reflété par la pupille de la victime. J'étais bien incapable de me souvenir dans quel récit j'étais tombé sur ce thème. À plusieurs reprises, il était tombé sous mes yeux, mais aucun écrit ne parvenait à ma mémoire. Je trouvais à cette histoire une résonance proche de celle des 21 grammes du poids de l'âme. Ces deux récits étaient de connivence. Il me vint donc l'idée d'explorer les aspects qui pourraient délivrer les variations écrites de la chambre noire de l'œil. Mercredi 23 novembre. Je lisais un roman et je tombais sur un passage parlant de la dernière image inscrite sur la rétine d'une morte. Avec un ophtalmoscope, Tribula Bonhomé recueillit la dernière image qui s'était inscrite sur la rétine d'une morte. Depuis qu'il a lu cette scène dans une nouvelle de Villiers de l'Île Adam, Sébastien Mekentem se demande parfois dans l'ombre du fond de sa librairie quelle dernière vision la sienne retiendra. Ce passage se trouve dans le roman de Pierre Robert Leclerc, La librairie de la rue Poliveau, page 105. Il y avait là une piste qui m'imposait de lire Tribula Bonhomé de Villiers de l'Île Adam.
C'est mieux, oui.
5 jours seulement se sont écoulés entre la lecture de la revue Métapsychique et l'évocation de la dernière image de la rétine d'une morte désignée par Pierre Robert Leclerc. Cette coïncidence de si peu de jours me conforta dans l'intention d'explorer les aspects de cette histoire.
Voilà. Ça devrait te toucher, comme toi, en tant que peintre.
Oui, oui, d'ailleurs, j'ai lu ce l'image qui se reflète dans l'œil de la victime, c'est ça, l'image de l'assassin.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs références qui m'ont fortement intéressé, oui, parce que j'ai lu le texte.
Il y a eu un fait divers qui est passé à la radio il y a quelques années. C'est au Japon. C'est une chanteuse qui est très connue comme ça et qui tous les jours envoie des selfies sur l'écran. Elle a je sais pas combien milliers de fans, de rapports, etc. Mais elle se cache bien. Personne ne connaît son adresse ni quoi que ce soit. Et il y a un de ses fans qui va agrandir une photo qu'elle a faite d'elle. Et dans la rétine se reflète la pendule d'une gare. Avec avec les aiguilles, l'heure et tout ça. Il arrive à situer le lieu et il va l'attendre, il va la retrouver, il va la zigouiller.
C'est extraordinaire.
Magnifique.
Et c'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le fantasme ou dans le fantastique. Non ?
Oui, sauf que l'optogramme, ça s'appelle comme ça, hein, ils disent que c'est pas vrai. Hein.
Oui, il y a un doute qui est...
Oui, d'accord, mais je te dis, c'est pas vrai. Mais là, mon histoire serait vraie.
Alors,
voilà.
Je sais pas, elle était pas morte, alors c'est peut-être ça la différence
ou... Non, la différence, c'est qu'il a réussi à... Que l'histoire est vraie, c'est-à-dire que l'image s'est gravée, la photo a permis de fixer sa pupille, quoi.
Oui, mais justement, là, ils disent que c'est un mythe et que ça n'est pas vrai.
Ah oui, alors là...
Et que ça n'est pas scientifique, ça n'est pas possible. Alors, je ne sais pas si c'est ton histoire
oui. Qui
est fausse.
Pourquoi tu me fais de la peine? Moi, je voudrais dire que la mienne, elle est belle, mon histoire, non?
Oui, la science qui se trompe.
Trop belle pour être vraie, sans doute.
Mais tu vois, on peut croire à plein de choses. Comme
mais ça, c'est un très beau mythe. Hein.
C'est un magnifique. Mais tu vois, par exemple, là, je sais que Maurice Rollina, le livre de la nature, a plagié Jacques Codard. C'est un poème qui s'appelle Le Minet.
Ouais, bah oui.
Il tête avec avidité.
Il tête Codard, Rollina.
Il tête avec avidité et se cogne au sein qui enlace. Puis, lorsque sa nourrice est lasse, il dort sur son ventre ouaté. Pour le minet doux et futé, c'est un lit que rien ne remplace. Il tète avec avidité et se cogne au sein qui l'enlace. Quand il sait bien, lit s'est gratté, pris la queue et vu dans la glace, avec ses tourments sur place et ses petits sauts de côté, il tête avec avidité. Qui a écrit ça, franchement?
Je sais pas, mais... j'ai honte.
Mais ça peut être que toi.
Hein? C'est un pseudo que j'ai utilisé très souvent au 19e siècle. Je me faisais appeler Rollina.
Oui, c'est magnifique. Oui. C'est beau, non?
C'est beau.
Rollina. Mais tu avais déjà publié Rollina. Hein?
Oui, mais j'avais publié les textes noirs de Rollina.
Oui, voilà.
C'est du chat noir.
Voilà, c'est ça. Les textes désespérés. Ça, c'est merveilleux parce que c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude. Voilà.
Ouais. C'est Georges Sand qui lui dit de
faire un livre pour enfants. Oui, de faire des poèmes pour enfants. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de poète pour enfants, ça n'existe pas, et donc elle lui demande de faire ça pour ses petites filles, je crois.
Parce qu'il est connu pour sa noirceur, hein, Rollina. Il est surtout connu pour sa noirceur.
Oui, pour sa noirceur. Et là, c'est le contraire.
Et là, je ne connaissais pas du tout cette...
Oui, c'est le contraire.
Il s'adore,
cet aspect. Ah oui, c'est mignon comme tout. Surtout le minet, là. Oui.
Je n'ai pas parlé sur lui.
Il y en a un autre, là, qui est très joli.
Le petit écureuil fait de la gymnastique sur un vieux chêne morne. Où foisonnent les gis. Les rayons de soleil, maintenant alanguis, ont laissé le ravin dans un jour fantastique. Le paysage est plein de stupeur extatique. Tous ces beaux chins distincts, comme dans un croquis, le petit écureuil fait de la gymnastique sur un vieux chêne morne où foisonnent les gis. Tout à l'heure, la nuit... La grande narcotique posera son pied noir sur le soleil conquis. Mais d'ici là, tout seul, avec un charme exquis, le petit écureuil fait de la gymnastique.
Tu n'as jamais pu écrire ça, Jacques Codard, c'est bien
là, c'est
trop
pas moi.
Pour
je
toi.
Me,
c'est bien
trop je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Ou alors, un moment de dégarement.
J'en ai trouvé un à ton niveau, là, tu vois. Le ver luisant dans l'herbe s'allume une fois encore à la même place. Le porc pleure au loin, la nuit est superbe. Oh, doux âge où l'on est imberbe. Je l'admirais comme un trésor. Le petit ver luisant dans l'herbe s'allume une fois encore. Mais dira le penseur acerbe, tout ce qui reluit n'est pas or. Moi, je réponds à ce buteur, que j'aime en dépit du proverbe, le petit ver luisant dans l'air. Oh. C'est joli, non?
Oh, c'est ravissant.
Ouais, c'est ravissant.
Bon, bah, tu es venu une fois, j'étais venu avec Ella Fitzgerald, tu m'avais dit qu'il y avait un côté maternel qui te plaisait pas tellement.
Billie Holiday, c'est
après
ça.
Billie Holiday, j'étais plus... vu en état un peu de turgescence avancée. Là,
oui.
J'ai essayé de. Là,
oui,
je vais.
À l'entre-deux.
Non, là, c'est pas entre-deux, parce que celle-là, elle est bien. Elle est bien. Ah ouais, elle est bien. Peggy Lee.
Ah oui.
Merci, Monique.
Ah oui.
Ladies and gentlemen, Basin 3D takes great pleasure in presenting Miss Peggy Lee.
Day in, day out. Darling, I think of you day in and day out. What is this? Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view. That possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine. So here it is. And here you are. Yes, here you are. Oh, here you are.
Peggy Lee, chers auditeurs, au 01 43 71 89 40. Oui, j'ai failli, n'a pu être là. Monique a sauté par-dessus la vitre de la cabine. J'ai craint. Ses doigts étaient tendus sur mon cou, mais j'ai résisté encore une fois. Ce n'est pas la première fois. Il y a un terme récurrent qui est. Il y a une chose récurrente chez toi, et j'ai envie de dire, pour une fois chez moi aussi, oui. C'est Paris.
Ah oui.
C'est Paris. Tu sais qu'Apollinaire disait « J'erre dans mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir ». Mais ça, c'est magnifique. Hein. « J'erre dans mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir ». Mais c'est, y a un amour. Tu n'aimes plus. Tu dis que Paris est une merde.
Oui,
t'es pas une fête.
Mais
quand même, tu y es.
Ensuite, je suis parisien, moi, depuis plusieurs générations. Donc,
et dans un certain Paris
Écoute, j'ai habité le 5e, où j'étais hier, d'ailleurs, que je ne reconnais plus du tout. On se croit à Montmartre, que je ne reconnais plus du tout. il reste encore le 20e. Toi, tu habites le 11e, si je ne m'abuse, qu'il reste encore des arrondissements à peu près potables, à peu près visibles, parce qu'il n'y a pas de tourisme. Mais ça commence, hein, ça commence à être bouffé un peu partout. Mais surtout, il y a une transformation de Paris en n'importe quoi, quoi.
En allée verte.
Oui, c'est ça. Le piéton de Paris de Léon-Paul Farr, il n'a plus du tout sa place dans le Paris d'aujourd'hui. On est bouffé par les vélos, les patinettes, les bagnoles.
Il y a tout ça, mais Paris est à géométrie variable. C'est-à-dire que ton quartier, par exemple.
Celui actuel, oui, rue de Bagnolet.
Ils ont essayé. Saint-Blaise. C'était un quartier de zonards au départ.
Total, oui.
Ils l'ont récupéré, oui. Et c'est de nouveau. Ça commence à revenir.
Tu veux dire la zone ?
La zone, oui.
Oui, c'est un entre-deux, oui, c'est ça.
Entre-deux, ça revient, mais ça a toujours été comme ça.
Il y a toujours une délinquance.
La rue Oberkampf, qui était devenue la rue à Bobo, ouais. Il y a une partie qui est demeurée, la zone est encore là. La rue de Ménilmontant, c'est pareil, il y a un côté mouvant chez.
Mais pareil, d'après Dumézil, les lieux géographiques comme ça reviennent toujours à leur version initiale, si j'ose dire. Donc, effectivement, le 20e qui se gentrifie. Par ailleurs, il reste toujours une délinquance qui, heureusement, sauve l'honneur des Apaches, des fameux Apaches de Madame, comment s'appelait-elle déjà ?
Casque d'or,
voilà.
C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi lorsque tu...
Quand je dis quoi ?
Lorsque tu dis que Paris est une merde.
C'est vrai ?
Oui.
Moi, ça dépend. Par exemple, hier, j'étais à la mairie du 5e. C'était pas pour ce bouquin, c'était pour un autre bouquin. Mais c'est effrayant, quoi. J'ai habité sur la place de la Contrescarpe pendant des années. C'est devenu quelque chose d'effrayant. Moi, je vivais quasiment avec les clodos à l'époque qui gardaient ma bagnole. Je rentrais au petit matin, pas très frais. Ils étaient tous là avec les chiens. On déconnait, on buvait des coups. Mais là, c'est plus possible. Parce que là, je suis en train de parler du Moyen-Âge. Quand tu vois la place de la Contrescarpe qui est devenue, c'est effrayant, quoi.
Comme tu
ne rechignes jamais au plagiat de toutes sortes.
Oui, oui, je suis un plagiat.
Dans ce pronostic vital engagé, oui,
qui est-ce plagiat ?
Sans crispation.
Oui, dis-moi tout.
En 1969, date de la publication de son célèbre roman La Disparition, dont la lettre E est totalement absente. Georges Perec se lance le défi de documenter année après année la destruction de la rue Villain, celle de son enfance qui serpente sur les coteaux escarpés du 20e arrondissement.
Oui.
L'écrivain projette d'y revenir régulièrement pendant 12 ans, comme sur 11 autres lieux parisiens, pour conserver la trace d'un triple vieillissement. Celui des lieux eux-mêmes, celui de mes souvenirs et celui de mon écriture, détaille-t-il dans Espèces d'espace en 1974. Abandonné en cours de route, son travail, provisoirement intitulé « Lieux », n'aboutira jamais. Et le 4 mars 1982, au lendemain de sa mort à 45 ans, les démolisseurs s'attaquent aux dernières masures de la rue. Ce jour-là tombe le numéro 24 où il avait vécu avec son père, mort sur le front en 1940, et sa mère qui ne revint jamais d'Auschwitz où elle avait été déportée. C'est extrait de
Télérama, c'est de Serge Aston ou Aston, je ne sais pas comment on prononce. Oui, effectivement, la rue Villain n'existe plus puisqu'il y a le parc à sa place. J'y suis allé donc pour m'en rendre compte. Et effectivement, il reste quelques numéros et il n'y a plus rien. Il y a un parc avec des gens qui sont sur les bancs et qui fument des cigarettes quand ils peuvent encore fumer des cigarettes.
Avant de revenir en prime, petite anecdote. Un jour, nous étions avec mon ami Gladiator que tu as connu, Claude. Comme ça, il y avait des dames très bien, très littéraires, et qui disent à mon ami Jimmy, disent, j'espère que vous avez lu ce livre de Georges Perec, La Disparition. Et, vous comprenez, c'est un livre, on ne trouve pas la lettre E d'un bout à l'autre du livre. Et Jimmy, très calme, répond, je suis en train d'écrire un livre, on ne trouve pas la lettre Y ni la lettre Z. Magnifique, non ? Bon, passons. Bernard Brianté, ça, je voudrais qu'on en parle, parce que toi, tu te piques d'être un plasticien.
Non, pas plasticien, j'aime pas le mot.
Tu aimes pas.
J'aime pas le plastique, alors, j'aime pas la matière plastique.
C'est un mot horrible, plasticien.
Tu veux savoir, en plus, ça, je suis d'accord avec vous.
Alors pourquoi tu l'emploies ?
La provocation, c'est ma provoque, ça fait réagir. Alors, Bernard Brianté, effectivement, Jacques, puisque...
Oui. Un collègue, c'est ça que tu veux dire.
Oui.
Très doué, hein. C'est un collègue qui est très très doué, que je connaissais donc un peu par un bouquin qui a paru chez L'œil de la femme à barbe. Il avait fait un truc sur la boucherie, c'est
bijouterie,
ça
bijouterie, boucherie.
Et je savais effectivement qu'il était passé de la peinture en bâtiment au dessin, surtout c'est un dessinateur fantastique, il a l'art du trait, du portrait,
l'imagination.
C'est fou, c'est d'une vérité, d'une cruauté presque. Réjouissant, c'est réjouissant. C'est réjouissant pour l'œil et pour l'esprit. Hein. Mmh. Tout à fait. Ouais.
Ça rappelle les baraques foraines, tu sais, il y a un côté les arts forains.
Ouais,
et
oui.
En même temps, il y a quelque chose derrière au niveau de la cruauté. Vraiment. Mmh. Ouais, c'est très, 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 très beau. Mais tu le connais ?
Je l'ai exposé à l'usine il y a longtemps. Hein. C'est un peintre que j'ai exposé à l'usine, mais ce n'était pas des dessins comme ça. C'était des dessins un peu plus surréalistes. Mais très intéressant aussi.
Il avait fait une exposition il n'y a pas très longtemps, c'était du côté de Saint-Germain. Il fait des petits objets
Oui, alors il met maintenant les choses en objet. Donc c'est des reliefs, c'est des sortes de boîtes avec des personnages découpés en carton, mais qui sont du même style que ses dessins. Des affreux Jojo, des clodos, des SDF, des monstres.
Dans ce numéro d'empreinte, numéro 43, il y a quelque chose qui est stupéfiant, c'est les complaintes criminelles. Où c'est que tu as eu ça, là ?
Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'ai eu ça.
Ah oui, ça va très tard, c'est 1870, 1940.
C'est une petite période, hein, ouais. C'est 50 ans. C'est des faits divers qui sont mis alors en complainte qu'on vend dans la rue, comme on vendait les chansons. On a vendu des faits divers qu'on chantait dans la rue et qui étaient les complaintes de l'actualité. Alors ce qui est quand même très fort, c'est que ce sont des faits divers très durs, très cruels, comme des maltraitances d'enfants ou des meurtres, ou voilà. Et que
au moment presque où ils sont arrivés, quelques jours après, on les retrouve dans la rue, et on les retrouve avec de l'humour noir, de la poésie et un sens du comique qu'on ne pourrait pas se permettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait plus de respect.
Ça serait impossible, oui. Voilà. Et qu'est-ce que c'est drôle pour... Qu'est-ce que c'est drôle, cette histoire? On va en lire un comme ça.
Vous imaginez aujourd'hui une histoire de pédophilie racontée dans la rue avec des termes...
Ou d'infanticide.
C'est inimaginable aujourd'hui. Ou de féminicide, ou de quoi que ce soit. On ne pourrait pas aujourd'hui faire ça.
Là,
tolérable.
On a un infanticide. Là, il y en a un qui se promène avec des morceaux de chrétiens dans sa valise.
Qui découpe en morceaux.
Tu vas le mettre avec nous, on va en lire un avec M. Triboulet, et puis toi aussi vas t'y mettre. Tu m'expliqueras aussi pourquoi, qu'est-ce que vient faire Jean Servais dans ton livre, dont j'ai toujours beaucoup aimé la gueule.
Oui, moi aussi, la voix.
On y
aussi.
Va après. Oh, la voix fantastique.
La voix. C'est surtout la voix.
On y va après. Monsieur Triboulet, vous l'avez, le crime monstrueux d'une mère dénaturée?
Oui, oui, je suis.
Allez-y, on va tous pleurer en agonie. Alors, déjà, c'est très drôle parce que agonie tragique d'un pauvre petit de 2 ans que la mère indigne, Marat, fit mourir par d'affreuses tortures. Il a 2 ans. Il a 2 ans.
Mais si tu vois, tu rigoles, c'est pas possible.
Vas-y.
Chère maman, écoutez-moi. Vous qui aimez votre cher petit, le cœur si souvent en émoi quand on vient vous parler de lui. Croirez-vous à ce crime infâme qui a été commis récemment par une marâtre deux femmes dans la Creuse à Benevent? Un ange mignon de 2 ans meurt torturé par sa maman. Prenant un sabot en fait d'armes, frappant sur la tête au petit, sous le choc, son pauvre crâne douloureusement se fendit. Alors la mégère sans pitié, insouciante des cris, des pleurs de ce petit ange blessé, l'abandonne à sa douleur. Mais une vraie maman voisine secourt l'enfant et s'indigne. De suite, le docteur appelé soigna si bien ce chérubin, fut obligé de le trépaner et lui donna ses meilleurs soins. L'opération lui réussit. Le petit est maintenant sauvé. Hélas, le démon l'a repris pour encore le martyriser, rendu à sa mère le jour d'après pour subir d'autres atrocités. Le gosse ne veut pas mourir, il veut rester avec sa maman qui ne peut pas le sentir. Il doit souffrir encore longtemps, elle le porte sur le fourneau, car il s'acharne toujours à vivre, lui brûle le ventre et puis le dos. Transporté vite dans une clinique de nouveaux soignés, le voici guéri. Pourquoi le lui a-t-on remis? Fracture du crâne et brûlure, n'ayant pas mis fin à ses jours, et par de nouvelles tortures, est traîné ce petit amour, dents cassées d'un coup de cuiller. Il doit les avaler durement, obligé toujours par sa mère, qui n'a plus aucun sentiment. La justice sera bien trop douce pour une tortionnaire si farouche. On voit trop de crimes chez nous, des horreurs et des misères, mais le crime affreux d'une mère est le plus terrible de tous. Les bonnes mères disent bien haut qu'il faut punir ces mégères. La justice doit être sévère et les conduire à l'échafaud.
Tout le monde connaît Vincennes, ces bois où les Parisiens s'en vont faire des festins le dimanche et la semaine. Un crime mystérieux vient de désoler ces lieux. Dans un buisson solitaire, on trouva l'autre matin une petite fille qu'un gredin lui avait tranché l'artère. Comme elle ne respirait plus, les soins étaient superflus, on arrêta par prudence de malheureux Italiens qui certes n'étaient pour rien. On prouvait leur innocence. Un reporter du petit journal eut le même sort fatal. La morgue, sur une dalle, on exposa cet enfant pendant 8 longs jours durant. Aux yeux de la capitale, personne ne la connaissait et l'émotion grossissait. Cependant, la Providence, qui veille sur les mortels, avec des yeux paternels, manifesta sa présence en envoyant tout à coup 3 femmes du gros caillou, qui reconnurent la petite pour la fille de Daveluy, un cantonnier qui avait fui de la maison qu'il habite pour emmener son enfant à Mulhouse, chez un parent. Tout ça, c'est un mensonge, car un domicile acier, dans la gorge tout entier, le scélérat voulut plonge et dit à sa femme le soir: « Ta Jeanne est partie, bonsoir.
La mère fut étonnée de ce départ si subit. Tout d'abord, elle répondit, la figure toute retournée, « Je ne verrai plus mon enfant !» C'était un pressentiment. Le meurtrier de la victime, poursuivi par le remords, a fait passer sur son corps un train vengeur de son crime. À Comble-la-Ville, près de Lieusan, s'est suicidé l'assassin. Morale. La mère n'est pas prise. On sait fort bien où elle est, car tout le monde s'imaginait que le coquin l'avait oxyse, ce qui prouve que les gueux ne s'aiment pas toujours entre eux.
Les moralités sont
moralité magnifique. Ah oui, oui. Magnifique. Mais pour revenir à ce que tu sais que dans André Breton, dans l'anthologie de l'humour noir, cite Ambrose Bierce.
Ah oui.
Et il y a ce fameux passage où il dit que les parents qui sont pauvres doivent manger les enfants.
Ah, oui.
Oui. Voilà.
Tout à fait, l'humour noir.
Ça passerait plus.
Non, ça passerait.
Ça ne passerait plus. Ça ferait ça. Voilà, ça ne passerait plus. Peggy Lee Fever, et après on parle de Jean Servais.
Jean Servais, d'accord.
Il a enculé sa grand-mère, tu le dis peut-être. Pourquoi tu dis pas
Thank you. Après, on... And hello. So, sort of looks like a... It's kind of romantic anyway, isn't it? Moments like this make me thrill through and through. Careless moments like this, close to you. Nonchalantly, we dine and we dance if we can. Yet my heart seems to melt in your glance, sweet. Moments like this, with the soft lights aglow, make me long for your kiss. But you'd catch my cold. Just one of all your affairs. But at moments like this, who cares, silly girl? Moments like this, soft lights aglow, I long for your kiss. Though I know I'd be just one of all your affairs. But as like this, who cares? Who cares?
Monique, 01 43 71 89 40, toujours sur Radio Libertaire. Dans ton livre, dès le départ, on sait que c'est un livre de peintre. Déjà, tu annonces la couleur, c'est le cas de le dire, oui, puisque c'est la première phrase. C'est la première phrase quand tu dis.
Et mon personnage est peintre.
Et tu dis.
C'est un double.
Verpituite.
Verpituite, alors le verpituite. Verpituite. Ça vient de moi, ça vient pas de Joyce. Mais Joyce commence Ulysses avec un verpituite également. Dans la nouvelle traduction, ils ont traduit vers de morve, ce qui est moins bien. C'est un druide, c'est un barde qui sort un mouchoir de sa poche morveux. Voilà. Et donc ce vers de morve serait le vers du. du poète.
Mais tout au long de ton livre, tu es poursuivi.
VERT et VERS.
Tu es poursuivi par la couleur.
Oui.
Parce que l'or est jaune, la soie est jaune, le souci est jaune, la lumière est jaune, la paille est jaune.
Il y a le bleu aussi de la mer.
À combien d'autres fils ce jaune ne répond pas. C'est Diderot, c'est une lettre à Sophie Volant. Voilà, tu as même été chez Diderot chercher des couleurs.
Bah, Diderot avait un œil de critique. Il a écrit beaucoup sur la peinture, effectivement. Donc je m'en suis abondamment servi. Et puis mon personnage est un peintre, hein, comme moi-même, c'est une espèce de double. Mmh. Et après, il y a même la fille dont il est amoureux écrit un roman, et le personnage porte le nom de Jacques Codard. D'accord. Dans ce roman.
Mais je pense que même s'il avait été terrassier ou plombier, oui, ça aurait été quand même un livre de peintre.
C'est possible, je ne me regarde pas dans la glace quand j'écris, ou alors trop, c'est l'inverse. Je me regarde trop dans la glace.
Bon alors, vite fait, que vient faire Jean Servais, que tout le monde a oublié.
C'est par goût, hein. C'est un acteur que j'adore. On en disait deux mots là à l'instant, hors antenne. Cette espèce de visage figé dans le whisky.
Toujours ambigu.
Oui, il est impassible. On se dirait un animal sans froid.
Il a une très belle voix.
Et avec une voix fantastique. Voilà. Comme vous-même, cher maître. Non, il avait une très, 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 très belle voix. Et ça tranche terriblement dans un film. Tu vois, ce type qui est là, de marbre, glacial, avec cette voix unique. C'est merveilleux.
J'avais, quand j'étais môme, un disque qui était sur le trésor, enfin, le titre m'échappe. Enfin, c'est marrant ça, le titre m'échappe. Et il y avait la voix de...
Jean Servais.
Jean Servais était le commentateur. Et je me souviens que je mettais ce disque pour écouter la voix de Jean Servais.
Ça ne m'étonne pas. Non, c'est une voix envoûtante. Oui, tout à fait. Et qu'on écoute surtout.
L'île au trésor.
L'île au trésor, tout simplement.
Je suis complètement en compte. C'est l'île au trésor.
D'accord.
C'est une voix qui reste comme ça.
Qui reste. Puis cette gueule, quoi. Il est de gueule en plus.
Jacques Codard disait il y a deux minutes, pour une fois, quelque chose qui n'était pas fausse. C'est-à-dire que dans Empreinte, dans ta revue, il y a tellement de choses, tellement de paradoxes. On passe de Rollina, du petit Minet que tu as écrit, Jacques, jusqu'à cette dernière image du mec qui est en train de chier. Là, faut dire,
ça vient de Rembrandt, voilà. Plus ou moins, non, cette gravure.
Oui.
Rembrandt a fait beaucoup d'hommes, beaucoup, quelques-uns.
C'est la plus connue de ce graveur.
C'est Bernard Picard. C'est celui qui a cérémonie et coutume religieuse des peuples d'Amérique. D'accord. Donc il a imaginé des cérémonies auxquelles il n'a pas assisté.
Voilà. Alors dans son livre, c'est un livre uniquement d'images, il n'y a pas de texte, sur les religions, toutes les religions du monde. Et donc certaines religions qui sont connues, eh bien il a été très correct et il a suivi toutes les cérémonies et les a gravées comme il faut, exactement. Mais sur les peuples encore trop inconnus, il a été obligé d'imaginer, puisqu'il n'avait pas d'informations. Et c'est ça qui est drôle.
Et c'est bien, et c'est au niveau de toi qui est, bah, on va revenir, toi qui es un... Non pas un plasticien.
Non.
C'est très beau au niveau du trait, non?
Un plasticien de garde, mais...
au niveau du trait, non?
C'est un très beau graveur.
C'est un graveur de grand talent, oui.
C'est magnifique au niveau du trait. Et la revue s'achève par une biographie des auteurs morts de faim, par un nommé Charles-Joseph Colnet du Ravel.
Jamais entendu parler.
Jamais entendu parler non plus.
C'est un libraire du XVIIIe siècle.
Il passe en revue, pas tous sûrement, mais des auteurs qui sont morts dans la misère, dont certains, bon, je me demande si, puisqu'on trouve Diderot, puisqu'on trouve Cervantes aussi.
Victor Hugo aussi, qui est mort de faim.
Bon. Non, Victor Hugo, c'était plus tard.
C'est un scoop. Ça.
C'était une très belle revue, encore une fois.
Oui, magnifique.
Donc, on va s'attendre au prochain numéro. Je ne te demanderai pas ce qu'il y a dedans parce que tu ne me le diras pas, Claude Brabant.
Ah non, je sais la surprise.
Je sais très bien. Donc, alors, où c'est qu'on peut trouver Empreinte 43?
Alors, on peut trouver à la Lucarne des Écrivains, qui est une librairie qui est rue de Lourcq, chez Armel Louis.
Oui.
On peut trouver à la Halle Saint-Pierre. Dans la librairie de l'Halle Saint-Pierre, le musée de, le musée d'art naïf et d'art brut, qui est à Montmartre. On peut le trouver à Publico. Mmh. Voilà.
On peut te le commander aussi.
Et on peut me le commander directement.
Alors,
il y a toutes les coordonnées sur la revue.
Oui, il faut bien préciser.
Alors, c'est les éditions de l'usine, 102 boulevard de la Villette, Paris 19e. Mmh. Et tu dis le...
Contact Brabant.
Voilà.
Point claude@nous.fr. Contact Brabant. Claude@nous.fr.
Brabant avec un T. Hein.
Avec un T.
B-R-A-B-A-N-T.
Vous pouvez toujours lire Pronostic Vital Engagé hein, aux éditions
Sans Crispation. Oui.
Ça vient tout juste de sortir.
C'est tout frais, oui.
On peut lire aussi Joseph Lance Belmer, hein, qui est un très beau livre, hein, Joseph Nozarsevski. Lance Belmer, malheureusement, tu as participé.
Oui, à la postface qui est complètement incendiaire.
Tu peux les manger chez Jourdan, si tu veux.
Oui, tu oui, peux oui. On peut amener ces grandes boxes.
J'espère que tu connais tout, ce qu'il appelle les salons des indépendants, ce qu'il
oui,
a écrit.
Sûr,
c'est la
sûr.
Plus grande critique. Qui n'a jamais été faite. Hein.
C'est un type remarquable.
Voilà. Et puis, malheureusement, vous pouvez aussi lire Florbel.
Ah oui, oui hein, qui est en lice pour le prix SAD.
Pour le prix SAD.
Voilà.
Voilà, c'est à 6 mois, non ?
Florbel, c'est... Non, c'est un peu plus vieux, je crois que c'était de l'an passé. Oui, c'est à 6 mois, on va dire. Et, là, et celui-là, oui, c'est un peu plus
vieux. Jésus qui est Héloïse, c'est là que tu te décris en tant que sportif de haut niveau.
C'est ça,
hein?
c'est aux
éditions
Douro. Je me prépare pour les Jeux Olympiques. Hein?
Et puis, si vous voulez vous faire plaisir et rire un bon coup, vous allez sur Public Sénat et vous récupérez Bernard-Henri BHV, Bernard-Henri Lévry, Lucré d'Aucœur.
Moi, je vous conseille Gérard de Villiers. Les SAS, c'est formidable.
D'accord. Merci à tout le monde, c'était un plaisir. Et merci. Mais c'est la dame, attention, vous avez vu comment elle peut réagir. Hein.
Merci à toi.
Si vous voulez me revoir, il faut dire merci. Hein.
Et merci à Monique.
Merci Monique.
Merci Monique.
Un plaisir.
Oh, merci Monique.
Soit d'ici ou de n'importe quel parage, moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part et portent dans leur cœur une ville ou un village où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, France bas de Nantes, voilà pourquoi Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand, et toi, Joël de la Charente, j'aime tant vous entendre parler de chez vous. Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur aussi lorsque l'on
laisse au pays. Chaque 1er janvier, on dit, c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant, nous voir faire même serment qui sombre à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car les pays se ressemblent de plus en plus. Et dans 10 ans, nous trouverons dans nos villages des distributeurs de hot dogs au coin des rues. Le whisky paraît acide dans les bars d'Adélaïde, lorsque l'on garde au palais le souvenir du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie, conscients de leur devoir, à nos enfants, nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera pas celui du terroir. Alors dis-moi, de nos 20 ans, François de Nantes, de nos 20 ans, Laurent, le gars du Canigou, Pierre le Normand, et tout à Joël de la Charente, nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier verre se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays.
C'était un soir de juin, l'alcool avait tourné, Jésus s'en revenait, ivre du cabaret, jurant et blasphémant, maudissant le carême, on l'entendait gueuler jusqu'à Jérusalem. Il pensait à sa panse bien plus qu'au Saint-Esprit, et il cherchait un lit pour apaiser ses sens. Il titubait ainsi, plus sous qu'à Tibériade, quand tout à coup il vit ses 4 camarades. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, je vais vous présenter les 4 camarades de Jésus. Le premier, Simon Pierre. Le premier Simon Pierre était un vrai ivrogne qui passait tout son temps l'innommable charogne à écuer sa vinasse sur un banc du quorum, ne bougeant sa carcasse que pour mander l'aumône. Le second, un certain André. Le second incertain, André pour les intimes, eunuque de métier, passé pour le plus digne. Il racolait les hommes pour 3 écus romains, du côté de Sodome, dans le quartier des Bains. Jacques et Jean, les deux frères, pala pala pala, pala pala pala. Jacques et Jean, les deux frères, deux aimables macros, avaient mis au tripot leurs 3 sœurs et leur mère. Les soirs de grands banquets, ils dénichaient des dames et allaient forniquer au temple d'Abraham. Ils étaient tous les 4 assis autour d'un banc, et ils gesticulaient comme de vieux forbans. Nos hommes étaient si saouls qu'ils se croyaient en mer. Tout autour de la terre semblait faire des remous. Vraiment, moussaillon, s'écriait le vieux Jacques, affrontant le plein fouet, l'écume et la bourrasque. Ah, moi le gouvernail, s'écriait son frère Jean, évitons la rocaille, et filons droit devant. Il naviguait ainsi sur la terre bien ferme, quand tout à coup ils virent l'éclair d'une lanterne et Jean. Là-bas, il y a un mec qui marche sur l'eau. C'est beau. Oh, les amis, un fantôme, s'écria le vieux Pierre par le Deutéronome. Il marche sur la mer, mais non, bande de cons, ce n'est que moi, Jésus. Vous êtes encore tous ronds, un bande de malotrus. Si c'est toi, cria Pierre, ordonne que je vienne. Eh bien, c'est profond, Jésus. Là. Je vais me noyer, moi. Je marche sur la mer et défile et ressac, s'écria le bon Pierre. Mais d'un coup Simon Pierre eut envie de vomir et ses jambes se mirent alors à flageoler. Oh, si c'est toi Jésus, je t'en prie sauve-moi. Et Jésus de répondre, homme de peu de foi. C'est pas fini. De 1000 ans de croisade, de sainte inquisition, de sang de dragonnade et de persécution, de chasse aux sémites, de chasse aux albigeois, d'autodafés de rites barbares pour la foi. 2000 ans de croisade, de colonisation, de crimes en dragonnade et de persécution, de massacre des juifs, de massacre des morts, de silence nazi, de massacres encore, 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite.
La télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux. Une femme et deux fils qui n'obéissent guère. À Château, une résidence secondaire. Le barbecue l'été, le feu de bois l'hiver. Et pendant le mois d'août, je me dors à la mer. Je suis heureux. Je sais choisir mon déodorant corporel, ma crème, mon tonique au parfum personnel. Je comprends mieux ma femme, je me rapproche d'elle. Je sais danser le jerk, j'ai un slip rassurel. Je suis heureux. Ma femme sort sans moi quelquefois, c'est son droit. Elle a ses connaissances, ça ne me regarde pas. Je vois tous les mardis une fille du nom d'Olga. Elle a la bouche grande et ça compte pour moi. Je suis heureux. Je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut évoluer, c'est la loi de la vie. Je ne dis pas cela parce que je suis nanti. D'ailleurs, tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit. Je suis heureux. Si j'ai peur du cancer, j'ai pas peur des Chinois. J'ai du cœur, j'ai donné 10 francs pour le Biafra. J'ai besoin d'érotisme, j'aime Barbarella. Et de Funès et Dracula quand je les vois. Je suis heureux. Rêve chaque nuit et des rêves barbares. Je suis toujours pirate ou cosaque ou tartare. Égorgeur ou violeur, incendiaire ou pillard. Et quand je me réveille au matin, c'est bizarre. Je suis heureux. Je ne perds pas mes cheveux, je ne perds pas mes réflexes. Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de complexe. Je suis bien dans mon âge, je suis bien dans mon sexe. aucune raison d'être angoissé ni perplexe. J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans lieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous êtes bien dans Trou Noir et aujourd'hui, on va faire un tout petit peu dans le désordre puisque je vais faire quelques annonces au tout début de l'émission pour ensuite laisser la place à la programmation consacrée à Michel Ragon. Donc, du côté de notre librairie fédérale, la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Ce week-end, pas de programmation, pas d'animation programmée à la librairie, mais comme vous le savez, vous allez le savoir, il y a tout un week-end consacré à Michel Ragon pour aller vous occuper. En revanche, il y a des choses tout à fait passionnantes la semaine suivante. Ainsi, le samedi 15 juin à 17h, le groupe Gaston Leval de la Fédération anarchiste vous invite à rencontrer notre compagnon Philippe Pelletier pour la présentation de son livre « Figures de l'anarchisme, femmes et hommes de liberté ». C'est paru tout récemment au Cavalier Bleu. Quelques mots pour en parler. De la fin du 19e siècle à nos jours, le mouvement libertaire est animé par des hommes et des femmes dont les noms ont marqué ces étapes clés de révolution ou de réforme. Au travers de 22 figures, 22 v'là les anards, nous dit Philippe Pelletier, plus une. Philippe Pelletier donc tisse les liens, les moments forts, les compagnonnages et les controverses entre elles, de Virginia Bolten à Stieg Dagerman, d'Errico Malatesta à Emma Goldman, en passant par Dario Fo, Sam Emba ou Murray Bookchin, de l'Europe aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Afrique, chacune et chacun incarne à sa manière la pensée et l'action anarchiste. Ces hommes et ces femmes ont ainsi contribué à façonner le socialisme libertaire en investissant de nombreux domaines, syndicalisme, gestion directe, autogestion, conditions féminines, antimilitarisme et antibellicisme, anticolonialisme, instruction, art, théâtre, littérature, agisme, les auberges de jeunesse et l'environnementalisme. Donc voilà pour vous présenter ce dernier texte, Philippe Pelletier, géographe, spécialiste du Japon, et qui s'intéresse aussi au rapport entre la géographie et l'anarchie en entrée libre, évidemment. Et ça, c'est samedi 15 juin à 17h. Le lendemain, le dimanche 16 juin, toujours à la librairie Publico, mais cette fois à 17h30, c'est le groupe Gaston Leval toujours qui vous invite à une rencontre débat avec Guillaume Goutte pour la présentation de son livre « Alpinisme et anarchisme » paru tout récemment aussi aux éditions Nada. Né au 19e siècle, au sein de la haute société britannique, l'alpinisme n'est pas resté l'apanage des dominants. L'idée de gravir les sommets a aussi fait son chemin parmi les exploités à la faveur des congés payés. Mais la montagne ne se réduit pas à un terrain de jeu, c'est aussi un refuge pour les opprimés, un lieu de passage clandestin, un terrain d'expression privilégié pour les luttes, un environnement qui peut sembler hostile et qui impose que ceux qui s'y aventurent s'entraident. Dans cet essai, Guillaume Goutte, militant CGT, anarchiste et féru de montagne, analyse les liens entre alpinisme et anarchisme et met en lumière un espace où la solidarité et la liberté forment un socle de valeurs communes. Dimanche, dans presque deux semaines, 16 juin à 17h30 à la librairie Publico, 17h30. Voilà, nous allons maintenant avec Serge vous présenter l'émission, la rediffusion de l'émission qui va suivre et qui est consacrée à Michel Ragon.
Oui, alors écoutez bien, c'est bien Aragon, vous ne mettez pas un devant, c'est pas Aragon, vous mettez un cerclé en tout cas. D'ailleurs, Aragon et Aragon se sont rencontrés, je sais, ça s'est pas du tout bien passé, c'est pas du tout le même genre de personnage. Donc j'ai à peu près, allez, même moins de 5 minutes pour parler avec Nicolas de Michel Aragon, juste très 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 rapidement. Et pourquoi aujourd'hui, ou cette année en tout cas d'ailleurs, on en parle, puisque c'est le centenaire de sa naissance, il est né le 24 juin 1900. 24, voilà. Donc, est décédé il n'y a pas très très longtemps, le 14 février 2020.